Salut à tous, Jérémy Royot pour Scepticisme Scientifique et aujourd'hui je reçois Florian Gouttière. Salut Florian.
Bonjour.
Voilà, donc Florian est journaliste scientifique et bah, je propose peut-être que tu te présentes pour les auditeurs.
Alors, je vais essayer de me présenter de la façon qui va le plus faire sens pour les auditeurs du balado. En fait, j'ai plusieurs boulots. 10 mois par an, je travaille pour un site d'information santé-médecine, en l'occurrence la plateforme web d'une émission qui est assez connue en France, qui s'appelle Le Magazine de la Santé, qui est diffusée sur la chaîne publique France 5. Donc je m'occupe depuis 2012, de façon sporadique, et puis surtout depuis septembre 2013, 10 mois par an, de la rédaction d'actualités scientifiques, de dossiers, avec une démarche de vulgarisation et surtout, autant que possible, un traitement critique de l'information, avec une part importante de relecture méthodique des études scientifiques qui viennent d'être publiées dans les grandes revues, un retour sur l'état des connaissances scientifiques, une remise en contexte des données. Donc ça, c'est le gros de mon travail. L'équipe du magazine de la santé m'a confié cette année quelques minutes d'antenne par mois pour parler de méthodes scientifiques en direct à la télé. Donc on peut me voir en tout cas jusqu'à fin juin 2016 sur France 5 quelques jeudis dans le mois. Donc ça, c'est mon métier principal. Et à côté de ça, je suis aussi chargé de donner des cours à l'université depuis la rentrée 2012. Donc c'est des cours de médiation scientifique. Des cours dans lesquels j'ai intégré un module de développement de l'esprit critique et d'initiation à la zététique. Le public de ces cours, en fait, c'est des futurs journalistes qui hésitent à faire aussi un peu de médiation scientifique. Donc, on les fait venir sous prétexte de médiation scientifique. Donc, interaction avec le public, voilà. Et on les met face à quelques dilemmes assez important, enfin on va y revenir tout à l'heure. Parallèlement, je coordonne aussi un festival de vulgarisation scientifique pour le jeune public dans le sud de Paris. Je fais de la formation pour la prise de parole des doctorants. Donc voilà, je fais toutes ces sortes de choses. Je fais ce gros résumé parce qu'en fait, il y a un an et demi, Jean-Michel m'avait invité à parler de mon travail à l'université. On n'avait pas réussi à caler quoi que ce soit. Puis dans un précédent Hangout, je sais que vous avez évoqué des interventions que j'ai faites justement dans cette émission sur France 5. Donc voilà, je m'en remets à toi. Je ne sais pas sur quelle partie de mon travail tu souhaites plus
Oui,
précisément.
alors, moi, une question que j'aimerais bien te poser par rapport au journalisme scientifique. Est-ce que, donc, sur la plateforme de France 5, sur laquelle tu travailles, d'où vient l'idée d'essayer de donner une information scientifiquement valide? Est-ce que c'est une démarche qui vient plus de toi, que toi tu as décidé d'apporter à la plateforme, ou est-ce que c'est la plateforme qui était demandeuse d'avoir une information vraiment bien étayée?
Alors moi, quand je suis arrivé, en fait, je remplaçais quelqu'un qui s'était cassé le genou, tu vois. Donc, pour faire l'actualité bête et méchante qui passait du procès des laboratoires servis, enfin quelque chose de pas forcément lié à la science. Mais dès les premiers jours où je suis arrivé là-bas, il y a fait les études qui sont promues par des grands services de presse, par exemple le service de presse de l'INSERM qui annonce que certains de leurs chercheurs ont fait une grande découverte. Et l'une des toutes premières études qui m'est tombée sous les yeux m'a semblé pleine de biais assez évidents. Et j'ai dit, écoutez, moi je veux bien écrire là-dessus, mais enfin, je vais dire que que ça rime à rien, quoi. Et on m'a dit, bah, écoute, si tu es sûr de ton coup, vas-y. Et ben, j'ai fait ça, et ça fait partie des articles qui ont été lus, commentés. Donc on m'a dit, bah, écoute, si tu te sens de continuer à faire de la critique d'études scientifiques, ne t'arrête pas. Et moi, c'est plutôt vers ça que j'avais envie d'aller. Donc ils ont trouvé un journaliste scientifique pinailleur qui aimait retourner à la source des études scientifiques. Et malheureusement, dans le métier, beaucoup de gens se contentent de relayer bah, les études ou juste de lire l'abstract. Et donc voilà, ils m'ont dit, écoute, si t'es assez fou pour passer autant de temps sur ces choses-là, plutôt que de relayer ce qui est dans l'AFP, eh ben, amuse-toi, tu seras pas payé plus. Mais donc voilà, c'est plutôt ma volonté. Et en fait, comme ça a apporté un contenu qui était un peu différent de ce qui existait avant sur cette plateforme, ils m'ont gardé. Voilà.
Ok. C'est une chouette démarche en tout cas, et c'est chouette de voir qu'ils ont été d'accord, que tu te mouilles un peu et que tu donnes des avis et qui n'ont peut-être pas plu à tout le monde finalement.
Ben, disons que sur cette plateforme, il relayait des études scientifiques, mais ils se font souvent aider par des médecins. Il y a des médecins qui relisent la plupart des articles. Donc, ils ont quand même une démarche de validation critique qui est très, très saine, qui fait que voilà, cette émission-là, elle a 16 ans d'existence, peut-être 17 ans d'existence, et ils sont connus pour être très sérieux sur leur validation, mais ils font valider par des médecins. Et la médecine, c'est pas de la science, hein, enfin, pour en revenir là-dessus, mais ça devrait l'être. En tout cas, elle devrait se baser. L'éthique médicale veut que les médecins se basent sur l'état des connaissances scientifiques pour avancer, mais c'est pas toujours le cas. Les médecins sont pas toujours à jour sur leur dossier. Ils essayent de l'être au maximum, mais j'ai fait beaucoup d'articles au début en interviewant des médecins qui étaient des experts en recoupant des mois après, par hasard, leurs propos avec l'état des connaissances scientifiques, avec des études Cochrane, etc. Et ben, je m'aperçois qu'en fait, ils disaient des choses qui étaient exactes du point de vue de leur pratique, de leur habitude, mais donc en fait, ils sont juste fausses d'un point de vue scientifique, quoi. Et donc, tout ce qui va dans le renforcement du sérieux du propos qui est dans l'émission, ils sont pour. Cette émission, elle est divisée en deux. Je ne veux pas parler 10 ans de cette émission, mais ils ont du personnel médical qui est là pour valider toutes les interventions, toutes les infographies. Enfin, ils essayent d'être le plus sérieux possible. Sauf que la validation médicale et la vérification des sources scientifiques, c'est quelque chose de vraiment différent et qui ne demande pas du tout la même formation, la même approche. Donc voilà, moi j'essaye de leur apporter ce retour aux sources scientifiques et retour critique, les remettre en perspective. C'est pas parce qu'il y a 5 études qui vont dans ce sens-là qu'il faut pas continuer à chercher pour voir s'il n'y a pas 92 autres études qui disent exactement le contraire, voire leur validité. Enfin, j'ai l'impression de faire un travail de méta-analyse au quotidien. Mais tant qu'on me laisse le faire, je suis très heureux de le faire.
Ok. Oui, bah, je pense que ce que tu dis, c'est en plus bien représentatif de ce qu'on trouve dans plein d'autres revues ou magazines en ligne. Le fait de prendre quelques études, de les mettre en porte-drapeau pour affirmer quelque chose et de ne pas tenir compte du reste de la littérature, c'est un peu, je pense, un des gros problèmes de pas mal de sites aujourd'hui, en fait.
Et je ne sais pas si c'est un problème qui vient de la formation journalistique. Enfin, elle vient très certainement hein, de la formation journalistique, mais je pense que quand il y a une étude qui est pas si vieille que je pourrais te mettre en lien, qui montre que quand que le travail que les déformations dans l'information scientifique viennent souvent du service com des universités, qui viennent souvent des services com des instituts de recherche. Les scientifiques font leur travail, le service com va monter le truc en épingle et il l'envoie à des gens qui ont soit pas la formation scientifique, soit pas le temps, enfin à qui on ne donne pas le temps de vérifier l'info, ou qui pensent savoir vérifier l'info et qui ont une méthodologie qui n'est pas forcément la bonne. Mais la plus grosse distorsion vient j'ai l'impression, des services de com. Et donc, si tu fais un. Enfin, moi, si je travaillais dans un service de com, si je voulais continuer à exercer le même métier, j'expliquerais aux gens que voilà, cette découverte s'inscrit dans une perspective historique très riche. Ça n'est jamais fait. Hein. L'objectif, c'est que les gens parlent des recherches de vos chercheurs pour que votre institut ait l'air d'être à la pointe. Et que des bailleurs de fonds se disent, ah vraiment, on a raison de donner des fonds à telle ou telle université parce que tout le monde parle d'eux, c'est bien qu'ils font des choses bonnes, quoi. Et le biais vient aussi pas mal de ces services-là, hein. Mais bon, comme je te dis, aussi les journalistes qui passent entre mes mains à la fac, enfin les futurs journalistes, Il y en a qui sont passés par d'autres formations journalistiques avant et ils ont un attachement énorme à la. Enfin, il y a une culture du témoignage. Le témoin vaut plus qu'une étude scientifique, que le micro-trottoir est quelque chose de vachement bien. Un expert qui a pignon sur rue, bah, c'est forcément un interlocuteur important en médecine. Il est praticien, donc il est légitime. Mais si tu vas demander à un homéopathe ce qu'il pense de l'homéopathie, ton article, il va être biaisé. Enfin, je dis des évidences, mais ce n'est pas des évidences pour tout le monde. Et quand j'ai commencé à travailler dans ce journal, il y avait un médecin qui était de passage et qui me voyait en train de lire des études scientifiques. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais, bah, avant de préparer l'interview, j'essaie de voir l'état des connaissances sur le sujet. Et il me fait, mais tu es intervenu à quoi là? Tu étais allé. Il regardait mon travail. Il me dit, c'est incroyable, moi je suis journaliste et médecin et je ne reviens jamais aux études en fait. Ça décrit autant l'état d'une culture journalistique et d'une culture médicale. Alors, je me place vraiment pas comme. Je pense que je fais le enfin, les gens font ce métier bien mieux que moi, mais j'essaye de le faire du mieux que je peux aujourd'hui. Et je pense que le travail que je faisais il y a 6 mois était bien moins bon que ce que j'arrive à peu près à faire aujourd'hui. Voilà, j'essaye de m'améliorer. Mais je sais en tout cas qu'il y a un grand déficit de culture scientifique, de connaissance de l'état des connaissances sur des sujets. Alors, on ne peut pas être expert. Mais avant de préparer un article, bah, interviewons plusieurs experts différents et puis essayons de préparer nos interviews sérieusement en revenant. Voilà, il y a des synthèses d'études très bien faites. Alors elles sont en anglais, mais sur beaucoup de sujets, on peut commencer à travailler dessus. On peut aussi voir ce que disent les zozos, enfin ceux qu'on considère comme des zozos qui ont des sites qui disent exactement le contraire, qui disent qu'il y a des complots partout, pour voir quels sont leurs arguments. Enfin, nourrissons-nous, ayons une culture du vrai, une culture du faux, une culture des pseudo-sciences pour savoir parler de science. Ça, c'est important et ça demande beaucoup de travail. Avant d'aborder des sujets, je mets plusieurs semaines avant, voilà, pour constituer une documentation dont je me suis nourri, que j'ai pu laisser infuser suffisamment pour poser des questions pertinentes, quoi. C'est très chronophage, mais ça permet de faire des articles qui ont, j'espère, un peu plus de sens. Voilà.
Est-ce que les journalistes, enfin les étudiants qui sortent et qui ont leur diplôme aujourd'hui, est-ce qu'on leur enseigne comment trier ou sélectionner ou évaluer les données scientifiques dans un cours ou pas du tout?
Alors, ça dépend où. Je sais qu'il y a des universités, enfin en tout cas des formations qui sont plutôt bonnes là-dessus. On leur donne en tout cas les premiers rudiments. On leur apprend à se poser des questions et face à une étude scientifique ou à une annonce d'étude scientifique, à se poser 10, 12 questions de base qui faut commencer à préparer le terrain avant d'écrire un article. Il y a des très bonnes formations, malheureusement. Les journalistes, il y a plusieurs choses. Les journalistes scientifiques, soit c'est des scientifiques qui ont fait une formation de journaliste, soit c'est des journalistes qui ont fait une formation de journalisme scientifique un peu pour se spécialiser, soit c'est des journalistes qui se destinent absolument pas à la science mais qui ont une appétence parce que les sciences c'est fun, les sciences c'est cool. Et un jour on leur dit, ah, il y a un dossier environnement, ah bah tiens je vais faire ça, et puis qui se revendiquent journalistes scientifiques. Et je pense que c'est en sortant d'une université qui vous a formé au journalisme scientifique, on commence à être armé, on a quelques clés. Mais moi je suis sorti de mes diplômes c'était autour de 2006-2007. Je ne me revendiquais pas journaliste scientifique. J'étais journaliste scientifique en devenir parce que justement je n'avais pas la prétention d'avoir la culture qui permet de faire ce boulot bien. Et je pense que voilà, je sais pas si ça répond à ta question.
Ouais, ça répond. J'imagine qu'il y a aussi un facteur qui est lié aux conditions de travail. Je suppose que les journalistes maintenant, surtout ceux qui interviennent sur des sites ou des magazines, ils ont un temps aussi très limité pour traiter leur sujet.
Alors moi j'ai énormément de chance, c'est-à-dire que je peux prendre le temps d'écrire, on me laisse, parce que voilà, j'ai un peu fait mes preuves. Et qu'on sait que si je passe plusieurs semaines sur un sujet, déjà j'écris vite, donc je peux faire le tout venant, voilà, les comptes rendus d'audience de Servier s'il faut les faire et qu'il n'y a personne parce que voilà, moi je prends tout le temps pour écrire des articles longs. Bon, on me laisse ce temps-là. Par contre, évidemment, je ne peux pas prendre 6 mois pour écrire quelque chose. Je suis obligé d'être rationnel. Comment dirais-je? Si, ça va aussi avec la vérification des sources, hein, tout simplement. Un journaliste doit vérifier ses sources. Normalement, il doit vérifier ses sources. Une fois qu'il les a vérifiées, il doit les revérifier, puis il doit les re-revérifier. Si, il pourrait les re-re-re-vérifier, mais si cette re-re-re-vérification, elle lui prend 20, 25 jours pour être vraiment sûr de sûr, bah, il ne va pas le faire. Enfin, voilà. C'est ce temps de vérification. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne prend même pas le temps de faire la première vérification des sources. Pourtant, ce n'est pas
Ouais,
très compliqué. Tu vois,
c'est un peu ça,
tu regardes que l'information que tu dis ne vient pas du Gorafi, déjà, c'est pas mal, quoi. Enfin, je ne sais pas
ouais.
si tu vois ce genre
Ouais, bien sûr.
de faux sites. Et puis, tu regardes que l'université existe bien. Bon, voilà, c'est rapide. Ensuite, tu vas voir l'intitulé de l'étude. Tu regardes juste l'abstract, voir si la conclusion de l'abstract, du résumé de l'étude, n'est pas trop en contradiction avec ce qui est dit. Tu regardes si les données sont plausibles, si les chiffres qui sont affichés. Voilà, si, tout simplement, s'il y a une plausibilité antérieure, s'il y a eu quelques publications avant, si c'est quelque chose de très nouveau, est-ce qu'il y a eu d'autres. Aujourd'hui, avec Internet, ça va très très vite de faire ces vérifications. Tu peux t'apercevoir qu'il y a des choses qui ne tiennent pas debout. Moi, j'ai un petit jeu sur Twitter, je suis assez actif sur Twitter, il y a un petit jeu que je lance souvent, c'est quelles sont les erreurs qu'a commis l'AFP en relayant les données, l'actu scientifique aujourd'hui. Et c'est assez fascinant. Je sais plus, il se. Trop, il y avait un truc sur la peste à Madagascar. Il disait la peste est transmise par les mouches et que les mouches transmettent la peste. Et ils ont confondu fly et flea. Enfin, je ne sais plus où c'était une histoire de moustiques et de. Et eux, je pense qu'ils ont. Il y a beaucoup de gens à l'AFP qui utilisent Google Trad. Tu vois, ils font du copier-coller où ils traduisent à la va-vite des dépêches d'agences américaines. Et à la fin, tu te retrouves avec des contresens énormes, des différences parfois d'un facteur 1000, d'un facteur. Ils confondent les calories et les kilocalories, enfin des choses qui. Et ça, tu vas te retrouver ça copier-coller sur tous les sites qui copient des dépêches pour avoir du contenu sur leur site, pour avoir du flux, pour que les gens aient l'impression qu'ils sont très actifs et qu'ils ont des grandes rédactions. Et puis voilà, pour que si quelqu'un cherche une information sur ce sujet, ils aient une petite chance de cliquer sur cet article qui n'a aucune plus-value par rapport, enfin, il ne rajoute rien par rapport à ce que l'AFP a mis. Puis ça leur permet d'avoir du contenu publicitaire, des clics publicitaires. Moi, voilà, et quand on me dit, Florian, il y a une dépêche AFP sur un sujet, ben, je la relis, j'essaye de voir si les noms existent, s'ils ont pas fait des. Si le chercheur qui cite n'est pas quelqu'un qui a publié des choses complètement absurdes par ailleurs, enfin, ça prend pas tant de temps que ça. Mais c'est cette vérification des sources zéro. Je vais même pas revenir à la. Je vais pas réinterviewer les gens, je vais pas reprendre ça, mais quand on me demande de reprendre une dépêche, je fais un travail de relecture de la dépêche. Et il y a beaucoup de journaux à qui on ne laisse même pas le temps, ce temps-là. On dit, c'est une dépêche, donc tu fais confiance aux journalistes qui l'ont fait, on paye. Moi, c'est ce qu'on m'a déjà dit. Écoute, on paye assez cher les abonnements à l'AFP pour ne pas relire leurs dépêches, on copie-colle et puis tu passes sur des articles à toi. Mais ce n'est pas du tout ça. Ça n'a aucun sens de reprendre une dépêche de l'AFP, de l'Agence France-Presse, si on ne repasse pas dessus, si on ne revérifie pas. Et surtout qu'en science, c'est dramatique. Il y a. Enfin, c'est pas dit. La plupart des sites reprennent les dépêches AFP telles quelles, donc les auditeurs du balado peuvent s'amuser quand ils voient quelque chose qui est écrit la rédaction de tel journal avec AFP. Ils peuvent s'apercevoir que tout ce qui est avec AFP, c'est du copier-coller sur tous les sites de France et de Navarre, et que ça contient toujours au moins une erreur, quoi. C'est parfois des petites erreurs, hein. Le nom du chercheur, le nom de la publication. Mais au moins une fois par jour, une actu science par jour de l'AFP contient une erreur, et parfois c'est des erreurs vraiment grossières, quoi, avec des énormes contresens sur l'étude, sur le sens de l'étude. Je vais essayer de te reprendre des choses très récentes. Alors après, ça peut être un peu daté, mais qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière dans l'actu? Je suis désolé, je vais peut-être pas être très rapide. Il y avait une histoire sur le. Je crois que c'était ça. Il y avait une actualité sur une étude qui était publiée sur le diabète et qui disait que. Attends, j'essaie de la retrouver. pas dire trop de bêtises. Je sais pas, j'aurais pu préparer, je devrais te faire mettre une pause. Diabète depuis 15 jours. Voilà, régime personnalisé pour chaque diabétique. En gros, l'AFP avait dit, voilà, des chercheurs israéliens ont fait une grande découverte. Le microbiome, enfin ce qu'on appelait avant la flore intestinale, le microbiote des gens est très différent. Quand ils mangent une tomate, voilà, bêtement une tomate, eh ben, il y en a qui ont des pics, enfin, dont la quantité de sucre dans le sang va être très élevée après, il y en a qui va être très faible. Eux, leur étude ne concernait que les diabétiques, en fait. Et ils disaient, voilà, les gens qui risquent d'avoir un diabète, ils devraient faire attention sur les préconisations médicales. Quand on leur dit, ben voilà, évitez les produits trop sucrés, eux, ils disent, ça dépend, en fait, de ton microbiote. Si tu as des bactéries qui dégradent le sucre d'une certaine façon, eh ben, tu peux manger autant de tomates que tu veux, il n'y a aucun problème. Mais selon ta flore intestinale, eh ben, y en a, les gens, ils vont prendre une tomate et ils vont avoir des pics de sucre. Donc, les préconisations générales sur les quantités de fruits, de légumes qu'on donne, que certains diabétologues donnent, sont mauvaises et il faudrait faire un screening de des bactéries que tu as dans l'estomac, une analyse des selles. Bon, ça, c'était l'étude. Eh ben, l'AFP a reproduit ça sur les régimes en général. Le titre, c'était « Pourquoi les régimes ne marchent jamais ?» Alors, on voyait plus trop le lien avec le diabète. Disaient, oui, alors, comme certaines personnes synthétisent des choses différemment en fonction des bactéries, eh ben, parfois, ce que vous mangez, eh ben, ça vous envoie plein de sucre dans le sang, donc votre régime ne marche pas. Ça n'avait aucun sens d'un point de vue médical. Ça transformait complètement le sujet de l'étude, de la recherche, et je n'ai pas compris comment ce contresens avait pu être fait, quoi. Et c'est, je n'ai pas, enfin, sur tous les sites qui ont repris cette actu, nous on est les seuls à avoir repris, enfin, être retourné à l'étude, quoi. Alors bon, parce qu'on avait le temps, peut-être, mais c'est étonnant que les gens reviennent même pas à l'étude, voir le titre, l'abstract, ça prend 5 minutes. Et s'apercevoir que c'était un sujet sur le diabète et pas du tout sur les régimes en général. Et ça, c'est tous les jours, quoi. Donc c'est inquiétant. C'est inquiétant de se dire que quand on voit marqué AFP et que ça parle de science, ben, le journaliste qui est repassé derrière, il a fait juste ce qu'on appelle du bâtonnage, quoi. Moi, ça me pose des questions sur mon métier, donc j'essaye de le faire différemment. Mais je ne jette pas la pierre aux journalistes qui font ça, parce que souvent, ils ne sont pas formés pour se poser ces questions-là, et il n'y a pas une exigence derrière. Il n'y a pas leur rédaction qui leur dit bah, tu reprends, il dit non, non, l'AFP, tu prends tel quel, tu ne te poses pas de questions. Ça, c'est très inquiétant, quoi. C'est très, très inquiétant.
Personne ne va se plaindre après s'ils font des erreurs, ça passe un peu inaperçu en fait.
Bah, ça passe complètement inaperçu, oui. Qui va reprendre quelqu'un qui va faire un petit commentaire dans les commentaires des articles ça va pas être modifié. Et puis, moi, ça m'arrive des fois de signaler à l'AFP qu'ils font des erreurs. Et ben, les modifications, ils les font pas toujours, quoi. Ils s'en foutent. Sauf quand c'est vraiment énorme, quoi. Mais ça fait des contresens fous. Enfin, je te dis, il y en a un par jour. Donc, la fois dernière, c'était une. Il faudrait que je revienne sur mon compte Twitter, parce que des fois, je suis un peu véhément quand je vois des contresens. C'était sur Ah oui, c'était sur les porcs. On a trouvé en Chine des antibiotiques qui sont. Enfin, des bactéries qui sont résistantes à des antibiotiques de dernière ligne, enfin ceux que tu utilises vraiment en dernier recours. Et voilà, donc ils ont fait des tests sur de la viande, sur des porcs, et ils sont aperçus, voilà, qu'il y avait. Sur à peu près 800 bêtes, et qu'une partie des. Non, c'était quoi? C'était beaucoup plus, c'était sur 3000 bêtes, et sur des 800 bêtes, et ben, il y avait cette bactérie, il y avait une Escherichia coli qui était résistante aux polymyxines, donc voilà, des super antibiotiques qui normalement réussissent à tout. Et dans l'AFP, ils disaient, et on a trouvé ça aussi, c'est 1300 patients, il y a 1300 patients qui ont. J'ai dit, on a retrouvé cette bactérie en Chine, quoi, dans le sud de la Chine. Alors, c'était formulé très bizarrement. Mais en fait, quand tu reviens à l'étude, il y avait 16 patients sur 1300 testés qui étaient infectés. C'est pas du tout la même chose que 1300 patients infectés, quoi.
C'est bien
Et
différent, ouais.
ah oui, c'est pas. Et alors, en plus, dans les titres, puisqu'en général, quand tu bâtonnes une dépêche AFP, quand tu reprends juste l'article, tu changes juste trois petits mots en entête pour que les gens n'aient pas l'impression de voir toujours la même chose sur tous les sites, tu changes le titre, quoi. Et puis la date, au lieu de dire hier, bah, tu mets la date, comme ça fait une toute petite modification qui
Ouais.
apporte un peu d'originalité. Et ben, on a vu 1300 Chinois infectés par une bactérie résistante. Et puis après, tu avais sur les mécanismes de comment est-ce que y a cette résistance a été enfin, acquise par les bactéries. Enfin, voilà. Les explications, on ne te parle jamais de pression de sélection. Enfin, même avec des mots plus simples, quoi. C'est des choses un peu magiques. Ça, c'est là, on arrive sur de la vulgarisation en général. C'est que les articles sont. J'essaye, quand je fais un article, de descendre au niveau de vulgarisation le plus simple, quoi. On va pas forcément rentrer dans les détails du nom de la bactérie. Je préfère que la personne ait compris quel était le mécanisme de pression de sélection que de lui expliquer que la bactérie, elle s'appelle B783. Enfin, ça, on s'en fout complètement, quoi.
Ouais, tout à fait.
C'est là aussi la vraie question, c'est quel est le but de l'information scientifique ou de l'information médicale? Est-ce que c'est faire des effets d'annonce, dire on a peut-être éventuellement trouvé quelque chose qui pourrait donner une piste de traitement dans une trentaine d'années pour certains malades du sida? Enfin, ça n'a aucun sens, ce genre d'information. Ça crée des attentes, des faux espoirs, et les gens, après, ils n'ont absolument plus confiance dans les sciences. Ce qu'on me dit souvent, c'est oui, la semaine dernière, on me disait que ce médicament, il est sans danger. La semaine d'après, on dit qu'il est dangereux. Et puis la semaine d'après, on redit qu'il est sans danger. Les scientifiques ne savent pas ce qu'ils veulent. La science se trompe toujours. Et on arrive toujours au même discours. Oui, aujourd'hui, on dit les bébés, on doit les coucher sur le dos. Avant, on disait qu'ils vont les coucher sur le ventre. Donc, dans le futur, on va encore les dire qu'ils vont être couchés sur le dos. On s'en fout des préconisations. Ben non, on a affiné nos connaissances et il y a très peu de chances qu'on dise dans le futur qu'il faut finalement les remettre sur le ventre, les bébés. On affine nos connaissances, on les améliore et il ne faut pas être dans l'annonce. Une petite étude microscopique vient de montrer que certains bébés qui ont un certain patrimoine génétique n'ont Il n'y a aucun danger pour eux d'être allongés sur le ventre. Enfin là, j'invente une étude, mais ça pourrait être tout à fait une étude qui serait relayée. Dans la presse, comme il n'y a aucun danger à relayer les bébés sur le ventre. Alors peut-être que dans l'article, tu auras le détail, mais nous, on voit très bien que les commentaires qui sont faits sur nos articles ne concernent jamais que le titre, quoi. Et donc, il faut avoir des titres très, 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 très honnêtes, quoi, et pas avec des points d'interrogation, pas avec des choses tendancieuses. Il faut dire dès le début, moi, j'écris de plus en plus d'articles qui disent non, qui commencent par un non, non, on n'a toujours pas trouvé. Une molécule qui guérit le sida. Enfin, quand tu as des annonces comme ça, il faut être vraiment très très clair. Là, il y a quelques semaines, il y avait compté le nombre de grains de beauté sur votre bras droit, prédit votre risque de mélanome, et tu as vu enfin, de cancer de la peau, et tu as vu dans la presse, si vous avez beaucoup de grains de beauté, vous aurez un mélanome. Vous aurez le cancer, ou alors vous avez peu de grains de beauté, vous n'aurez pas le cancer. Enfin, c'est complètement absurde. C'est quand tu regardes le détail de l'étude, c'était vraiment quelque chose de statistique. Enfin, ceux qui sont intéressés, j'ai écrit un article et mon article s'appelle "Avoir peu de grains de beauté sur les bras n'immunise pas contre le mélanome". Voilà, c'est un sujet moi qui m'intéressait pas. Quand j'ai vu cette étude passer, j'ai dit mais elle n'a aucune espèce d'intérêt. C'est quelque chose qui va intéresser quelques médecins. Et comme c'est repris partout, après, tu es obligé d'allumer des contrefeux, quoi.
Oui, t'as
Voilà,
souvent
voilà.
un mélange entre corrélation et causalité dans
Quasiment tout le
ces
temps, ouais.
publications, quoi.
Et puis, dans le travail qu'on me demande de faire aussi, Ah, Florian, j'ai vu, il y a une étude qui dit que depuis qu'on utilise tel pesticide, il y a de plus dans le même temps, il y a à peu près. Enfin, la courbe du nombre d'enfants autistes augmente exactement de la même façon. Je voudrais que tu fasses un papier sur le lien entre autisme et pesticides. Mais enfin, tu peux le corréler aussi avec le nombre d'enfants qui s'appellent Kevin, quoi. Est-ce que c'est le fait de s'appeler Kevin qui donne l'autisme? Je ne sais pas, mais c'est fortement corrélé, quoi. Donc, quand tu regardes l'étude qui a annoncé ça, c'est même pas une étude, c'est un commentaire d'article qui a été effectivement publié dans une grande revue, mais où il n'y a aucun calcul, aucune plausibilité, aucun indice sérieux que puisse y avoir ce lien. Alors peut-être qu'il y a un lien entre les deux, mais rien ne permet de l'avancer, rien ne permet de faire un titre. Je peux commencer à ouvrir un dossier là-dessus, c'est ce que j'ai fait, commencer à essayer de voir s'il y a des. Mais on voit vite que dans les zones où on utilise énormément de pesticides, CFA dans des pays d'Amérique du Sud, on les utilise à tout va. Il y a peut-être énormément de problèmes sanitaires, mais alors l'autisme, c'est le. Aucun lien, enfin, tu peux très rapidement réfuter ce genre de problème. Mais une fois que c'est lancé, eh ben, il y a beaucoup de sites qui les reprennent. De toute façon, voilà, il faut être hyper vigilant. En fait, faut traiter peu d'informations, il faut la traiter. En prenant son temps. Ce que les éditeurs, si des rédacteurs en chef nous écoutent, il faut qu'ils comprennent que nous, sur notre site, on a multiplié par 8 ou par 9 le nombre d'internautes qui nous visitent grâce à ces articles qui analysent, enfin, qui prennent le temps d'analyser, qui sont longs et qui en fait disent, je vais pas dire le contraire de ce qui est dit ailleurs, mais qui remettent en contexte ce qui est dit ailleurs. Donc, on voit que les gens sont avides enfin, les lecteurs sont avides d'une information sourcée, précisée, et surtout qu'ils prennent rapidement l'habitude de dire, oh là là, cette information, moi, elle me fait un petit peu peur, elle est un peu anxiogène. Bah tiens, qu'est-ce qu'il va dire l'autre emmerdeur d'allodocteur.fr qui dit toujours, moi, je suis pas d'accord, moi, je suis pas d'accord. Et ben voilà, oui, effectivement, je suis pas d'accord. Et puis, ça m'arrive d'être pas d'accord pour des mauvaises raisons. Et ben, dans ce cas-là, j'explique humblement que j'ai pris un peu trop de temps. Il y a beaucoup de sujets que je refuse en conférence de rédaction le matin. Je dis non, je suis à peu près persuadé que c'est encore un effet d'annonce. Le soufflet va retomber demain. Alors généralement, le lendemain, on me dit, bah, il faut que tu écrives un article pour expliquer pourquoi tu penses ça, parce que tout le monde l'a repris dans tous les autres sites. Mais bon, voilà, ça m'arrive régulièrement d'avoir été un peu trop critique et un peu trop, d'avoir joué le mauvais sceptique, quoi. Mais c'est pas très grave, je préfère ne pas avoir mis 5 jours pour annoncer qu'on a trouvé un vaccin qui fonctionne chez un vingtième de la population et c'est déjà mieux que rien, que d'avoir fait un article, on a trouvé le vaccin sûr. Parce qu'il fallait que je vérifie les sources, parce qu'il fallait que je vérifie ceci et cela, quoi. Voilà, je prends juste le temps. On me demande souvent, on m'a plusieurs fois demandé, puisque je parle beaucoup de scepticisme scientifique par ailleurs, vous êtes un journaliste scientifique sceptique, je pense juste que je suis un journaliste scientifique critique qui fait de la le métier de je fais le métier que j'aimerais faire, en fait. J'aime prendre le temps de vérifier. En fait, je vais même plus loin, j'ai pas l'impression de faire un métier, j'ai l'impression de faire vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Quand on me dit quelque chose de curieux, bah, j'aime vérifier. Comment est-ce que tu sais ça, quoi? D'où tu sors cette information? Mais je vais vérifier, ça a l'air trop. C'est tellement étonnant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans le scepticisme scientifique, dans la zététique, dans tout ça. C'est parce que on leur racontait, je sais pas, moi, mon père, il me racontait des histoires, des pistes de Nazca où il y avait probablement des atterrissages d'extraterrestres, de machin, mais je trouvais ça génial, quoi. C'était des histoires de mon père. Alors, en plus, il se trouve que ça parlait de lieux existants. Je gobais ça comme des histoires pour enfants ancrées dans le réel. Pour moi, c'était certainement aussi vrai que le Père Noël, la petite souris qui prend un pouls et qui prend les dents. Bon, un jour, j'ai découvert que la petite souris n'existait pas. Bon, ça, premier choc sceptique, quoi. Après, le Père Noël, ça, merde, bon, c'est pas grave, bon, mais Dieu quand même, non, Dieu, il est vrai, lui. Alors qu'en fait, finalement, quand on y réfléchit, on a beaucoup plus de preuves de l'existence du Père Noël que de l'existence de Dieu. Je veux dire, le nombre de personnes qui ont vu le Père Noël, le nombre de cadeaux au pied du sapin, enfin, on a tous les preuves de l'existence du Père Noël sont énormes. Alors, un jour, je me dis, ah, merde, peut-être que Dieu, puis on a moins de preuves que le Père Noël, alors c'est. Et puis tu rentres là-dedans, et puis tu dis, ouais, mais bon, quand même, les pistes de Nazca, ça, c'est du sérieux. Et puis tu discutes avec des gens qui pensent exactement la même chose que toi. Puis un jour, quelqu'un qui te dit, mais d'où tu sors ça? T'as lu Le Matin des Magiciens? Ah non, alors je vais lire Le Matin des Magiciens. Ah, oh, c'est génial, Le Matin des Magiciens. Tant d'ouverture, et puis tu t'aperçois qu'au début, ils disent que c'est un roman. Tu dis, ouais, mais quand même, ils donnent plein de références. Ah ben non, il n'y a pas de source. Mais pourtant, ils ont l'air vachement sûrs de ce qu'ils avancent. Ah, et puis ils ont vu des yogis. Ça y est, il cite un bouquin qui parle des yogis en lévitation. Alors, comme tu es curieux et que tu as envie de retourner aux sources pour comprendre, pour pas relayer une information bêtement, tu t'aperçois que l'illustration du yogi, eh ben, c'est une illustration que tu as vue dans un bouquin de prestidigitation. Ah, merde alors, est-ce que la personne qui a relayé bêtement cette histoire de yogi, elle s'est pas fait berner par un prestidigitateur? Puis voilà, moi, quand on m'a proposé de faire ce boulot au magazine de la santé, j'ai dit, mais allons-y, allons-y. Vous me proposez en fait d'être de passer du temps à vérifier les sources, c'est ce qui me plaît le plus. Je vais pas m'arrêter. De vérifier les sources, et puis c'est pas que vérifier les sources. Vérifier les sources, ça a pas de sens en soi. C'est voilà, de les remettre en contexte. Voilà, qu'un homéopathe ait publié des études, c'est une source, certes, mais comment est-ce qu'il a mené son étude? Pourquoi est-ce que je suis en droit de dire que son étude, alors qu'elle a été publiée dans une grande revue scientifique, donc c'est de la science, et bien que non, c'est pas de la science, que c'est de la pseudo-science. Voilà, il y a tout un travail de vulgarisation de ce que c'est que la démarche critique, que l'esprit critique, la démarche de vérification des sources que je fais régulièrement. Pour citer un exemple, je parle beaucoup, hein, tu me dis si je blablate trop.
Pas de souci.
Il y a quelques semaines, alors c'était le 23 octobre, dans la presse, il y a eu une annonce comme quoi on avait trouvé une femme qui était capable de sentir l'odeur des malades de Parkinson. C'est une dame dont le mari était atteint de la maladie de Parkinson et donc qui est décédée hein, depuis au début de l'année. Et elle était dans une réunion de patients avec, je sais pas s'il était avec son mari, ou en tout cas, elle était dans une réunion de patients où il y avait des experts, des médecins. Et puis elle balance quelque chose dans le genre ah oui, de toute façon, les Parkinsoniens avec leur odeur. Et bon, quelqu'un qui a relevé ce qu'elle a dit, mais qu'est-ce que vous racontez là? Ouais, oui, les Parkinsoniens et leur odeur. Enfin, les Parkinsoniens, ils n'ont pas une odeur particulière. C'est une maladie neurologique, il n'y a aucun lien avec l'odeur. Elle fait, bah, si, mon mari, il sentait bizarre. Et puis après, on a appris quelques années plus tard qu'il avait la maladie de Parkinson. Et moi, je peux vous dire, quand j'arrive ici, dans la foule, je reconnais très bien les Parkinsoniens des gens qui les accompagnent à cause de leur odeur. Alors, on lui a dit, mais non, mais madame, peut-être que votre mari avait un problème de transpiration. Enfin. Et la personne avec qui elle a échangé était quelqu'un qui avait un esprit critique assez, et puis qui bossait dans un laboratoire. Elle a dit, écoutez, on va faire une petite expérience très simple. Je vais vous donner, vous allez venir dans mon labo, et puis je vais vous donner 12 t-shirts pas lavés. Il y en aura une partie, alors je sais pas si, enfin, il y en a 6 qui auront été portés par des malades et 6 par des pas malades. Et puis vous allez me dire, voilà, on va voir si vous arrivez à discriminer lequel appartient aux malades et lequel n'appartient pas aux malades. Et elle a fait 12 sur 12, et ça a été annoncé dans la presse comme on a découvert l'odeur de Parkinson, une femme testée par des scientifiques a découvert l'odeur de Parkinson. Incroyable. Et on m'a dit, Florent, il faut que tu écrives un article là-dessus. Et bien, mon article, en fait, c'est un article qui pose la question, est-ce que toutes les précautions dans cette expérience ont été prises? Déjà, est-ce qu'on lui a dit que sur les 12 t-shirts, il y en avait 6 et 6, ou on lui a dit il y a des t-shirts, certains pourraient appartenir à des malades, certains à des sujets sains. Tu n'obtiens pas les mêmes résultats. Alors, c'est à peu près la même chose hein, quand tu fais vraiment le calcul, mais bon, déjà, ça n'obtient pas les mêmes résultats. Est-ce que ça a été fait en double aveugle? Enfin, il y a tellement de questions. Juste les t-shirts, est-ce que on a pris des t-shirts de personnes qu'elle connaissait? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on, le type a demandé à des gens de cette association de patients, ben, passez-moi vos t-shirts, c'est pour faire une expérience. Ben, si elle a reconnu le t-shirt du gros Dédé et le t-shirt de la personne qui l'accompagne, elle va dire, ah, le t-shirt de Jean-Claude. Ah ben, alors, le t-shirt de Jean-Claude, ben, Parkinson. Ben, c'est facile aussi, ben, je peux le faire. Hein. Et puis, tu as aussi la question de l'âge. La maladie de Parkinson, elle peut arriver tôt, mais tu as beaucoup plus de chances de l'avoir quand tu es âgé. Les différences d'odeur corporelle entre les jeunes et les vieux, ça c'est très bien étudié. Et on n'a pas la même odeur à 20 ans qu'à 30 ans. Peut-être qu'elle a un nez très fin, mais qu'elle reconnaît plus quelque chose qui est en lien avec l'âge. Et donc, voilà, ça va biaiser son. Pour mener bien cette expérience, il faut prendre des t-shirts blancs qui fait porter à des gens qui ont le même âge, le même profil. Enfin, voilà, je ne vais pas te donner un cours de. Mais est-ce que ça a été fait? Donc, j'ai appelé le chercheur qui n'a pas pris le temps de me répondre. Alors, je l'ai un peu harcelé. Il m'a dit, ah, mais j'ai pas le temps. Donc, j'ai fait mon article. Puis finalement, là, je sais qu'il a commencé à me renvoyer quelques détails du protocole, mais il m'envoie ça au compte-gouttes. Mais ce qui est fou, c'est que, voilà, j'ai pas posé des questions qui sont très compliquées. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir fait du journalisme scientifique. Enfin, je me considère tellement pas comme un journaliste qui un jour aura le moindre prix de journalisme. Enfin, je fais un travail de tâcheron du journalisme scientifique. Je me pose juste la question, est-ce que le protocole était un minimum sérieux, quoi? Et en fait, non, le protocole, il n'est pas du tout sérieux et que Alors peut-être que voilà, elle a fait 12 sur 12, peut-être qu'il était à peu près bien fait, et peut-être qu'on va, dans 5 ans, on va vraiment trouver. Là, ils font une expérience sur 200 participants, alors s'ils la font bien, on va peut-être découvrir que Parkinson a une odeur détectable. Bah, très bien, mais dans l'état actuel des connaissances scientifiques, écrire des articles qui disent Parkinson a probablement une odeur ou on a découvert l'odeur de Parkinson, c'est juste faux. C'est de la désinformation, ça n'est que de la désinformation. Et ça, il y en a, mais tellement, il y en a tous les jours. Ça me rend fou, en fait.
Ouais, bah, le souci, c'est que beaucoup de gens ne savent pas qu'une étude ne prouve rien. Et donc, dès qu'ils voient une étude qui dit quelque chose, bah, pour eux, c'est une preuve de l'existence de ce qui est décrit,
Exactement, c'est
ce qui n'est pas le
exactement. Il n'y a
cas,
pas de remise en
évidemment.
perspective. C'est
Non.
hallucinant. Donc,
Et à côté de ça, bon, ça, c'est les gens qui le font avec de bonnes intentions, mais à côté de ça, il y a tous les sites qui ne sont pas comme celui sur lequel tu travailles. Qui sont des sites qui reprennent en faisant des copier-coller de tous les articles qui vont dans le sens de ce qui les intéresse.
Et sur lequel tu tombes, tu as un biais évidemment de confirmation
Oui,
quand tu.
voilà,
Enfin
sur
voilà,
lequel
après.
tu tombes, et donc ils vont être relayés après par tous les gens qui eux-mêmes ont les mêmes idées que le site qu'ils ont partagé, etc. Et donc ça se répand comme une épidémie après de désinformation comme ça.
Alors après, j'ai malencontreusement donné le nom de notre site. On a l'impression que je fais de la pub. Les internautes qui vont surfer sur ce site vont se dire, mais c'est pas du tout un site sceptique. Il y a des trucs. Enfin, on donne la parole à des psychanalyses. Il y a même des articles parce que cette émission, enfin, ce site, c'est aussi le site d'une émission dans laquelle ils font venir des homéopathes, des machins. Alors, ils les font venir à dose homéopathique, ils essayent de pas. Ils ont une politique qui est peut-être très intelligente et elle est assez rationnelle. C'est de. Ils vont pas faire une émission pour dire l'homéopathie c'est de la merde parce que ils disent ça va tellement braquer les gens qu'ils vont plus jamais regarder l'émission et ils n'auront plus d'informations scientifiques sérieuses par ailleurs. C'est-à-dire pour arriver à convaincre, enfin à convaincre, à faire comprendre aux gens de toute l'absurdité profonde de la théorie homéopathique qui est réfutée depuis enfin, un siècle et demi au bas mot. Enfin, je suis très optimiste comme ça. Si on n'y arrive pas par ailleurs, si on n'y arrive pas avec l'information, on va certainement pas y arriver avec une émission. Donc, donnons-leur des clés de compréhension, soyons critiques, mais pas frontales. Et puis, on va arriver peut-être, justement, par des articles sur le site qui vont être faits par des journalistes scientifiques pinailleurs et critiques, bah, ça leur apporter petit à petit des clés. Et dans notre émission, il y a des reportages ou il y a des articles sur le site. Enfin, moi, je suis pas rédacteur en chef, hein, mais je me dis, mais non, ça répond pas à des standards de journalisme sérieux. Mais on me dit, voilà, il en faut pour tous les goûts. Et que, de toute façon, si tout le monde prenait autant de temps que toi pour écrire ou pour faire des reportages, j'aurais pas d'émission. Ça serait une mensuelle et ça serait, il y aurait trois articles à l'année, donc enfin, on me fait une fleur, quoi. Mais il faut le voir autrement. Je pense, tout le monde essaye de faire de son mieux. Il y a des exigences de production pour l'émission. Enfin, tous les matins, dans l'émission quotidienne, il y a des journalistes qui vont faire un reportage sur un sujet d'actualité. Ils arrivent, enfin. La plupart du temps, ils se plantent pas, quoi. Ils arrivent à avoir le bon interlocuteur qui va avoir un regard critique, qui va être capable de remettre en perspective ce sujet d'actualité et qui va pas dire ah oui, on a trouvé. Parce que voilà, ils ont un carnet d'adresses génial avec des experts qui sont vraiment pertinents. Mais parfois, ils se plantent, comme tout le monde se plante. Je trouve cette émission de qualité. Mais voilà, dans le flux de l'information, enfin, on tombe sur des dans nos fils d'actu. On a aussi des choses qui sont douteux, quoi, ou qui sont au moins le titre est racoleur. Enfin voilà, il faut pas se le cacher, quoi. Je fais de mon mieux pour que ma propre production soit là-dedans. Enfin, je crois que c'est Gandhi qui dit ça. C'est toujours bien de citer Gandhi. Mais voilà, il faut être le changement qu'on veut voir dans le monde. Je vais pas dire à tout le monde, convertissez-vous au scepticisme scientifique, vérifiez les études en anglais. Refaites les calculs, moi c'est ça. Des fois, je refais les calculs des chercheurs pour quand il y a un truc qui me semble énorme, quoi. Une étude il y a 2 ans sur le danger du du vin, il y a quelque chose qui est contenu, une molécule qui est dans le vin, qui s'appelle le resvératrol. Je prononce toujours mal en plus, c'est ridicule, mais qui est un antioxydant, le resvératrol. Oui, maintenant je le prononce bien. Et donc voilà, il disait voilà, cet antioxydant à forte dose, elle peut déclencher des maladies auto-immunes. Bon, d'accord. Il dit, elle est donc à déconseiller comme traitement d'appoint pour les personnes atteintes de maladies comme la sclérose en plaques. Il dit, voilà, si vous prenez des grosses gélules de resvératrol, c'est dangereux. Bon. Et alors, je voyais dans les journaux le vin déconseillé aux personnes atteintes de sclérose en plaques, le vin déconseillé aux personnes. C'est bizarre quand même cette info. Donc, je suis revenu à l'étude, j'ai regardé, j'ai refait une partie des calculs. Et le résultat, c'était que les chercheurs qui avaient publié, qui s'étaient fait relire par leur père, s'étaient trompés d'un facteur 1000 ou 10 000. En gros, je crois qu'il fallait boire, alors je te dis ça de tête, hein, 6 000 litres de vin par jour pendant 15 ans pour que le risque commence à apparaître, quoi, sur ce qu'ils avaient publié. Et donc, d'un facteur 1000 ou 10 000, enfin, de toute façon, c'était 6 litres de vin par jour pendant 15 ans, c'était énorme.
C'est pas facile d'arriver à ce niveau-là.
Mais ouais, non, même pour un Français, il faut y aller quand même. Hein. Et alors, j'ai écrit aux chercheurs, enfin, où se trouve le problème? Est-ce que c'est moi qui ne sais pas faire des calculs? Ce serait très possible. Hein. Mais ils m'ont dit, bah non, vous avez raison, notre calcul est faux, on s'est trompé dans nos unités. Donc les unités qu'on a publiées sont fausses, c'est étonnant que personne ne l'ait vu. Les unités sont fausses, mais voilà, notre conclusion est valide. Enfin, nous, on parlait bien en micromol, pas en mol, enfin je sais plus exactement, hein, je dis ça de tête. Mais de toute façon, nous ne parlons pas de vin, nous parlons de cette molécule qui est extraite comme antioxydant et qui est utilisée dans les traitements. On ne comprend pas pourquoi des journaux ont parlé du vin, quoi. Et enfin, cet immense grand écart pose plein de questions. Quelqu'un qui serait revenu à l'étude aurait vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, se serait posé toutes ces questions. Spontanément, moi, quand j'ai lu l'étude, j'ai pensé vin. J'avais un billet de français, quoi, dans ma tête. Je vois un truc sur resvératrol, je me dis, ah, il parle du vin. Combien de litres de vin ça fait, quoi, pour écrire un article? Si jamais, enfin, après, j'allais vérifier d'autres choses. Le fait que, est-ce que c'est la première fois qu'on découvre ça, ou est-ce que c'est la 15e fois qu'on découvre que ça peut être dangereux pour certaines maladies auto-immunes? Mais déjà, de base, vérifier. Est-ce que ça fait un verre de vin par jour, ou est-ce que ça va faire quelque chose qui ne mérite même pas une préconisation dans un magazine, quoi? Et personne n'a fait ce travail. Enfin, il y a un biais aussi de perception de ma part. Peut-être que des gens ont fait ce travail et que je ne le vois pas parce qu'ils ne l'ont pas publié. Il y a probablement beaucoup de journalistes qui font très bien leur boulot. Mais voilà, ils gueulent pas comme moi sur les réseaux sociaux en disant c'est un scandale, tout le monde reprend cette étude complètement foireuse et personne n'est revenu à la source. Enfin, c'est mon leitmotiv permanent, quoi. Voilà.
Ouais, bah oui, bah, j'avais un peu regardé ce qu'il y avait sur le site où tu travailles pour un peu les articles en général. C'est vrai que le niveau est assez bon. Bah, j'ai vu des articles notamment écrits par la rédaction. Bah, je pense à le dernier que j'ai vu sur la méditation où ils remettaient un peu en question le fait que c'était efficace par
Ah.
rapport à la douleur, des choses comme ça.
Alors,
Et ouais.
cette histoire de méditation, je vais révéler un secret d'alcôve. L'article a été publié très très vite par quelqu'un qui travaille chez nous de façon sporadique. Et il a dit, ben voilà, je vous ai fait un truc sur une étude qui vient de passer. Et il l'a mis dans la chaîne de validation pour que des gens le relisent. Et généralement, voilà, on a des personnes qui ne sont pas H24, enfin, tous les jours sur le site et qui nous donnent des coups de main. Et elle était dans la chaîne de validation, elle a été publiée. J'ai vu le truc passer et j'ai fait, mais là, l'étude dont il parle, elle n'a pas encore été publiée en fait. Elle va être publiée demain en fait. Donc il a forcé, c'est forcément basé. Non mais il s'est forcément basé sur l'annonce de l'université. Donc voilà, je vais sur le site de l'université. Il s'est effectivement basé sur l'annonce de l'université. Mais comme je me méfie, j'ai dit juste, est-ce qu'on peut le retirer du site? Parce que voilà, c'est très bien de relayer ça a l'air sérieux leur protocole, mais il y a un mot moi qui me choque, c'est qu'ils disent on a utilisé la méditation placebo, quoi. Et je me dis, enfin, je comprends qu'ils veuillent nous rendre service et publier vite, mais Je pense que cette notion de méditation placebo mérite d'être expliquée. Donc on l'a retirée, j'ai appelé le journaliste, on a discuté ensemble, il a dit oui, je sais que vous aviez besoin d'un article sur le sujet assez vite, moi je ne pouvais pas le faire demain, de toute façon voilà, on va, enfin, faut faire confiance, cette université, elle dit rarement des conneries non plus, enfin voilà, on va pas tout remettre en question. Je fais, mais vérifions quand même. Et en fait, ils avaient dit le contraire de ce que disait l'étude, quoi. Voilà, tout simplement. Ou plutôt, ils avaient dit... Ils avaient pris tout le positif de l'étude et tout ce qui était discussion, critique. Et il y avait une grosse partie où les auteurs se remettaient en question et disaient. Il y avait une partie qui disait que. Enfin, voilà exactement ce que ça disait. Ça disait la méditation de pleine conscience, cet état de méditation. Ben, tu vois très bien de quoi je parle. J'espère que nos auditeurs. Sinon, que les auditeurs viennent sur cet article, ils en sauront plus. Ou qu'ils échangent avec toi. Ou fais un podcast sur la méditation de pleine
Oui,
conscience. Vous en avez peut-être déjà un
on a
d'ailleurs.
déjà fait, oui.
Désolé, j'ai du retard dans ma consultation du balado. Et il disait, voilà, quand tu fais quelque chose qui ressemble à de la méditation, tu fais quoi aux gens qui font de la méditation mais qui ne répondent pas du tout au canon de ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience? Il n'y a pas du tout les mêmes états, enfin, les zones du cerveau par IRM activées ne sont pas les mêmes. Alors, ça, c'est ce qu'ils annonçaient comme une grande découverte. Il y a une différence. Bah, tu ne fais pas faire les mêmes choses aux mêmes personnes. C'est normal que leur cerveau ne s'allume pas de la même manière.
Voilà, tout à fait.
Admettons que ça ne soit pas révolutionnaire. Mais bon, ils ont fait cette découverte. On pourrait s'arrêter là et juste nous dire, nous, ça ne nous concerne pas. C'est ça la seule chose qu'ils ont trouvée. En tout cas, sur le résultat, est-ce qu'il y a une différence dans le bien-être des personnes? Il n'y avait pas de différence. Par contre, il y avait une différence avec une crème placebo. Il disait, la méditation de pleine conscience marche vachement mieux qu'une crème placebo. Mais ce n'est pas la question. Il faut comparer les choses comparables. Il faut comparer la méditation placebo et votre méditation. Vous êtes fait chier à créer une méditation placebo. Bah, comparez. En plus, c'est le créateur du protocole de méditation placebo qui mène l'étude. Donc, mais tout. L'université a dit, ça marche vachement mieux qu'une crème placebo. Mais oui, mais évidemment, faut comparer quelque chose qui n'a rien à voir, c'est facile. Et est-ce que ça marche mieux qu'un bisou placebo? De tous les placebos, lequel marche le mieux? Et voilà, donc la méditation pleine conscience comparée à quelque chose de comparable, bah, ne fait pas mieux. Mais pendant 10 minutes sur notre site, parce que cette personne a fait, qui généralement fait très bien son boulot, etc. Mais voilà, parce que il y a un moment où tu te dis, bah, c'est bon, enfin, l'université, elle a pas pu annoncer un truc pareil en biaisant à ce point les conclusions, quoi. Enfin, au pire, bah, enfin, son papier, il était très court, hein. C'était vraiment, elle faisait un petit résumé, c'était une brévouille, une petite brève qui disait, voilà, les conclusions de cette université, et puis ça va plutôt dans le sens de choses qu'on connaît, quoi, que les gens sont satisfaits de ça, mais c'était pas la question. C'était pas la question. Et on pouvait pas publier le titre qu'on a publié pendant 10 minutes sur notre titre, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et donc, ça demande une vigilance, voilà, qui est collégiale. Et puis, ça m'a. Alors, attention, tu vois, on a vraiment l'impression de dire à Florian, il se la pète. Mais alors, le nombre de personnes qui m'ont dit, mais Florian, tu te rends compte que ta source, sur ton article-là, elle n'est pas bonne, quoi. Ça peut être juste. Je source toutes mes affirmations et des fois, je les envoie vers les mauvaises sources. Enfin, j'ai fait le bon travail, mais après, je laisse l'internaute, s'il veut vérifier, retourner au document. Il fait, ah, tu t'es trompé, Florian. Tu renvoies les internautes vers autre chose. Bon, d'accord. Ou alors, Florian, tu te rends compte que tu as refait les calculs pour dénoncer que le calcul était faux, mais ton calcul est faux lui aussi. Donc, tu as autant tort que ce que tu dénonces. Donc, c'est très bien de dénoncer, mais dénonce. Et il y a une vigilance, c'est souvent des anciens collègues, des stagiaires qui sont passés, que j'ai rendu fou en leur faisant réécrire leur papier, en leur disant c'est pas assez sourcé. Et voilà, ils s'amusent après à repasser derrière moi et me dire, mais là, l'étude que tu cites, eh ben, elle a été remise en question par une autre. Alors des fois, je les piège, oui, mais regarde, si tu regardes bien, celui qui l'a critiqué. C'est quand même le premier des charlatans. C'est juste qu'il critique pour pas que son business coule dans les 6 mois. Mais enfin voilà, c'est un travail qui est pas qui se fait pas en solo et qui demande de la vigilance d'une rédaction, quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup d'humilité là-dessus. Il faut faire de son mieux, il faut prendre le temps. Et puis si jamais à un moment on dit bah, Florian, faut publier, bah tu publies. Et puis tu restes. Il faut être vigilant des commentaires de de personnes qui sont critiques. Et il y a des gens qui viennent sur notre site de plus en plus parce qu'ils savent qu'ils vont trouver du pinaillage, de la zététique appliquée à la médecine ou de la, enfin, juste de la lecture critique d'études. Et voilà quoi. Moi, je suis attentif à leurs critiques et ça me permet d'avancer. De toute façon, c'est le but, c'est d'avancer.
Okay. Bah oui, on espère qu'il y a plus de journalistes qui feront un travail comme le tien dans le futur, en tout cas, parce que c'est assez positif.
Bah oui, il y en a. Et puis, je dis, dans les stagiaires qui viennent, je vois qu'il y en a qui viennent de formation, ils se posent les questions de base, les bonnes questions. Après, ils font souvent trop confiance aux dépêches. Il faut trop confiance au travail des autres journalistes aussi. C'est ça, en fait. Faut pas. Il faut avoir confiance en personne. Il y a un de mes étudiants qui me disait, Monsieur, avec vous, on n'a plus confiance en personne, on n'a plus confiance en rien. Vous êtes un négationniste. Je veux faire, déjà, ça veut dire que je fais très mal mon boulot. Je te dis pas d'avoir confiance en rien. Ça veut dire de réfléchir pourquoi tu fais confiance à telle ou telle source. Donc voilà, mon travail d'enseignement, ça m'a posé des questions, quoi, se faire traiter de négationniste parce qu'on dit juste. De vérifier ses sources, c'est bon, voilà, c'est grave, hein, mais ça pose des questions. J'ai vachement avancé sur ces questions de comment expliquer l'esprit critique aux étudiants, aux jeunes journalistes. Les formations que je donne là-dessus, elles sont peut-être un peu moins aussi violentes que je faisais avant. Je faisais des séances. Des séances à mes étudiants où je prétendais qu'on allait étudier une science alors que je leur faisais vraiment étudier une pseudo-science. J'aurais fait ce que font beaucoup de professeurs d'esprit critique hein, ou de chargés de TD qui font de l'esprit critique, enfin, des choses autour de la sorcellerie, autour de la de l'hypnose parce que c'est facile à faire et c'est intéressant de voir que ça pose énormément de questions aux étudiants. Que c'est ça commence à leur faire mettre en doute beaucoup de choses, parfois très personnelles, parfois. Enfin ça, je sais que vous en avez discuté avec Richard Monvoisin, qu'il faut pas trop être
Ouais, tout à fait.
frontal. Lui, je sais qu'il en est revenu de ça, qu'il fait de moins en moins d'activités très. Il va pas attaquer sur l'homéopathie, il va pas attaquer sur l'hypnose, sur le. Mais moi, je pense qu'il faut, pour des journalistes scientifiques, pour des gens qui essayent, il faut vraiment leur poser la question, pourquoi est-ce que vous alliez de but en blanc commencer à écrire un article sur ce sujet en disant, oui, c'est vrai, ce que nous savons sur l'hypnose, ce que nous savons sur ceci, ce que nous savons sur cela, vous-même, vous ne savez rien, quoi. Mais enfin, monsieur, votre expérience, on s'en fout, vous n'êtes pas journaliste pour parler de votre expérience. C'est pas ça le métier. Mais si, et quand. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Demander l'avis de qui? Demander l'avis de qui? Mais il faut demander l'avis, c'est une très bonne question. Demander l'avis de patients, bah vous aurez un test de satisfaction. C'est pas de la science. Voilà. Ah, les patients sont satisfaits de leur acupuncteur. Bah, c'est très bien. Merci, c'est très, très, très intéressant. Et ça n'apporte rien. Vous avez demandé à un acupuncteur, bah, il va vous parler de l'idée qu'il se fait de son métier. Si vous vous êtes fait faire des séances d'acupuncture, vous êtes un très mauvais journaliste sur l'acupuncture. Parce que vous avez déjà. Vous êtes biaisé là-dessus. Bah, il faut revenir sur des études en double aveugle. Oui, c'est possible en acupuncture. Ah bon, pourquoi? Et puis, à la limite, si jamais c'était pas possible, bah, ça nous donne notre niveau de connaissance sur l'efficacité propre de l'acupuncture, quoi. Mais voilà, c'est des questions qu'il faut qu'ils se posent. Et j'essaye de leur faire se poser très vite et d'avoir un rapport assez violent. Enfin, je vais essayer de finir quand même là-dessus. Cet étudiant qui m'était rentré dedans, j'avais fait plusieurs séances où je leur faisais enquêter sur un chercheur qui avait publié pas mal d'articles et je leur avais fait faire pas mal de travail dessus. Et donc, ils avaient commencé à me donner des articles sur son travail, sur l'évolution, sur la postérité de son œuvre. Puis à un moment, je leur ai dit, vous savez que ce chercheur n'existe pas, en fait. J'ai fait quelques commentaires sur quelques blogs en citant cette personne. J'ai créé une biographie sur un obscur site qui a été copié-collé à droite à gauche. Vous êtes en train de me balancer des informations que j'inventais et qui ne sont pas plausibles, quoi. Et je leur ai donné un autre travail pour la semaine d'après qui était aussi faux, mais ils n'ont pas encore remis en question cette chose-là. À la fin, ils ne croyaient plus en rien. Et je leur ai dit, C'est pas grave, à la prochaine fois, en tant que journaliste, quand vous verrez un site qui vous semble sérieux, une publication très sérieuse dans Nature, très sourcée, dites-vous toujours, Florian a écrit cet article, quoi. Et ils disent, mais vous allez nous rendre complètement parano, quoi. Eh bien, c'est peut-être plus ça que je veux que vous reteniez de mon cours. Pas il faut douter de tout compulsivement, il faut juste avoir une petite loupiote. Si ce n'est pas vraiment plausible, si c'est un chercheur dont j'ai jamais entendu parler, si c'est une info vraiment qui semble dénotée des connaissances, du consensus, bah oui, mais monsieur l'acupuncture, il y a un consensus, l'OMS. Ah ben voilà, mais si vous voyez que dans des sites d'information scientifique, il y a des gens qui mettent un peu des bémols, commencez à vous nourrir là-dessus. C'est un travail qui se fait sur le long terme. Et c'est pas grave, je vous demande pas de m'écrire des articles pour m'expliquer tous les défauts de l'acupuncture demain ou dans 5 ans. Je vous demande juste que si on vous demande d'écrire un article là-dessus, de ne pas interviewer qu'un acupuncteur. Et je vous demande de revenir sur les méta-analyses de l'efficacité de l'acupuncture pour le mal de dos, et puis d'essayer de les lire, d'en lire une belle, une qui porte sur beaucoup d'articles, sur une grande cohorte de patients. Puis ça, vous commencez à vous poser des questions, vous écrirez peut-être un article qui, moi, va me faire hérisser les cheveux sur la tête. Mais le prochain sera peut-être meilleur. Et puis voilà. Et puis, c'est pas grave. De toute façon, il y a tellement de choses mal sourcées et pas vérifiées qui sont diffusées, et je dois participer moi-même à ça. Quand je reviens sur des articles que j'ai écrits il y a 2, 3 ans, il y a des choses, je me dis, j'aurais pas dû les publier, je les ai pas assez vérifiées. Elles sont pas assez subtiles, j'ai pas mis assez de nuances, ma conclusion, elle est trop large, ça concerne qu'un sous-échantillon de la population, je passais peut-être un peu vite là-dessus. J'ai pas menti, mais en insistant un peu plus, le lecteur aurait peut-être retenu ça, j'aurais dû le mettre dans le titre, dans le début de l'article, et pas à la fin. Enfin, ça pose plein de petites questions sur la qualité de ce qu'on dit, sur le temps qu'on consacre à l'information, sur le fait qu'on ne peut pas être expert en tout et que il faut juste améliorer son travail, essayer de faire mieux en tant que journaliste, en tant que personne qui participant à la diffusion des connaissances scientifiques. Voilà. Tout ça, ça partit tout le boulot que je fais à côté, notamment dans la médiation scientifique, tu vois, dans le festival de sciences que j'anime chaque année, que je coordonne, etc. Dans la préparation des sujets, je bosse, voilà, avec des chercheurs. J'essaie de revenir sur l'état des connaissances sur des sujets, et je vois qu'en finalement, les activités proposées aux milliers de personnes qui viennent sur le site. Sur cette semaine-là, si j'avais fait un boulot économique vite fait bien fait rentable, eh ben je leur aurais dit énormément de conneries, quoi. Ça demande le même travail. C'est pour ça d'ailleurs que mon module de développement de l'esprit critique, il s'est initialement créé dans une section pour de médiation scientifique présentielle, enfin parce que je disais aux gens, voilà, en tant que médiateur scientifique, vous allez dire des choses que vous croyez vraies. Comment est-ce que vous sourcez les informations que vous donnez face à un public? Et si on vous pose une question à laquelle vous n'avez pas la réponse, que répondre? Enfin, faut pas répondre quelque chose qui vous semble juste, parce que vous allez diffuser des conneries, quoi. Vous avez raison, mais ce sera un coup de bol. Donc dites juste, je ne sais pas, je vais vérifier. Si vous revenez, eh ben on en reparlera. Et sinon, si cette question vous intéresse vraiment, vérifiez par vous-même. Voici les sites qui, moi, me semblent plausibles parce qu'ils sont. Enfin, c'est une démarche générale de toutes les personnes qui sont à l'interface de la recherche et du grand public curieux, qui est, voilà, comment faire en sorte que l'information dont se fait le relais, dont on se fait passe soit le bête passe-plat, quoi. Tiens, t'as dit ça? Ah bah tiens, je vous le passe, ça va vous intéresser. Ne soit pas justement un simple relais. On vérifie que le goût de la sauce. Ah, tu me passes le plat pour que je le passe au grand public? Un peu trop salé. Et puis t'as mis de la coriandre alors qu'ils sont allergiques à la coriandre, c'est complètement stupide. Puis un plat, ça se fait pas comme ça. T'as pas du tout suivi la recette. Bah, je vais pas leur annoncer ça en leur annonçant que c'est typiquement français alors que c'est un truc que tu as fait tu as ouvert une boîte, tu l'as vidée. Je sais pas si ces métaphores à l'emporte-pièce sont. Je pense que des gens comprendront que beaucoup de services de presse, d'universités et de sociétés qui diffusent des agences, Voilà, Serge Ducassoulet en boîte qui annonçait ça comme le grand raffinement de la grande nourriture française, et que ces produits contiennent parfois de nombreux pesticides, des bouts de caoutchouc et des morceaux de cheval, alors qu'on annonce que c'est du pur agneau ou du pur porc. C'est la métaphore du jour. Voilà, voilà. Pour conclure, parce que je vais me faire un poil d'auto-promo. Les articles intéressants, parce que j'en écris comme je te dis, du tout venant, il y a des articles qui sont plutôt intéressants pour les auditeurs du balado, parce qu'ils sont vraiment dans un. J'ai ouvert il y a quelques jours, pour les gens qui nous écouteront, un site qui s'appelle curiologie.fr. Curiologie, comme ça se prononce, hein, .fr, où je recense en fait toutes mes publications d'intérêt. Voilà, je définis la curiologie, non pas la curiologie, c'est l'étude de certains hiéroglyphes en vrai, mais enfin, la curiologie comme juste une démarche pour rester curieux face à des choses et savoir comment, face à une information curieuse, se positionner, ne pas la gober. Tu vas me dire, mais enfin, c'est du scepticisme scientifique, mais c'est de la zététique. Mais tout à fait, mais tout à fait, mais scepticismescientifique.fr existant. Puis, comme je suis connu sur les réseaux, sous le doux nom de curiologue, eh bien, avec un G à la fin, eh bien, je me suis dit que j'allais faire ça pour centraliser toutes ces données, puis aussi pour, que les gens qui viennent débattre sur la qualité des études que je critique, etc., on puisse rentrer dans le dur, quoi. Je me dis, des sites d'information généraliste, si les gens voient dans les commentaires qu'on commence à parler, je sais pas moi, de funnel plot ou on va faire fuir des gens qui pourtant viennent là pour trouver une information sourcée. Donc voilà, pour les gens qui veulent me taper dessus et me dire que tout ce que j'écris est faux, je vous en prie, je vous incite à venir me chercher des poux dans la tête. Il faudrait que le journalisme aille vers ça. Il faudrait que les journalistes s'engagent à plusieurs choses. Il faudrait qu'ils s'engagent à ne pas avoir de conflit d'intérêts ou à publier leurs conflits d'intérêts éventuels. Ça peut être, ben voilà, ils ont pris des actions chez GDF Suez parce que trouver ça rigolo d'avoir un portefeuille en action. Eh ben, il faut qu'ils le disent sur leur page. Il faudrait que ça soit recensé. Et que si on voit qu'ils n'ont pas de conflit d'intérêts, on ne se dit pas, ouais, de toute façon, tu écris ça parce que tu écris un article contre l'homéopathie, parce que tu as des actions chez je ne sais pas quelle grosse entreprise. Bah non, pas du tout. C'est juste que cet article ou cette étude est fausse, quoi. Enfin, il faudrait qu'on publie ça et il faudrait qu'on puisse pouvoir rentrer dans le dur et que nos lecteurs puissent nous dire, bah là, vous êtes pas, vous êtes, enfin, vous avez pas été assez rigoureux, quoi. Et que les rédacteurs en chef soient montent en gamme et se disent bah on va recruter des gens rigoureux, des gens qui ont une formation scientifique et une formation littéraire, journalistique, et on va les accompagner, on va entretenir leur culture scientifique, leur capacité à comprendre les statistiques. Moi voilà, je me suis remis aux statistiques à 3 ans pour pouvoir faire mon boulot de journaliste, quoi. J'étais pas obligé, mais ça m'a semblé être mon devoir. Je suis pas un bon statisticien, mais j'ai quelques lampes, quelques alertes de plus qui s'allument parfois, et ça me permet de voilà d'écrire si peu d'articles et de probablement je vais me faire virer un jour parce que je suis pas assez productif, mais ça je compense par une originalité, et voilà, tout simplement, je pense qu'ils se disent allumer des contre-feux sur des études, c'est aussi le devoir de ce site pour lequel je travaille, qui est censé être celui d'une émission de service public pour la télévision publique. Donc voilà, ils estiment ce devoir de service public, et je suis assez content de bosser pour eux. Voilà.
Bah, en tout cas, on mettra le lien sur la page de l'épisode hein, de ton nouveau site
Ouais.
et bah, de celui sur lequel tu travailles aussi, hein, le site de France 5, quoi.
Bah oui, si vous.
Donc on peut citer de toute façon, hein, donc à le docteur. Et voilà, donc merci en tout cas d'être venu partager un peu ce que
Ce
tu
coup de
fais dans ton
gueule de
travail.
journaliste critique.
Ce coup de gueule de journaliste critique. En tout cas, s'il y a des auditeurs qui connaissent des journalistes, bah, n'hésitez pas à partager, ça leur fera sans doute des infos intéressantes pour eux aussi. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode et donc je vous dis à bientôt.